Madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Tartal, Monsieur le ministre, directeur de cabinet, président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le secrétaire général du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs, c'est un agréable devoir pour moi de présider cette cérémonie officielle d'installation qui marque le démarrage effectif des activités de la deuxième mandature du Conseil économique, social et environnemental. Conformément au décret 2018-1450 et 2018-1460 du 8 août 2018. Aussi voudrais-je avant tout adresser à chacun et à chacune d'entre vous mes chaleureuses félicitations. Je voudrais également rendre un vivant hommage, un hommage mérité à l'ensemble des membres de la première mandature, mais également à la présidente Amina Tartal qui a présidé pour leurs avis de proposition sous l'éclairage de l'expertise plurielle qu'ont fait de cette institution l'un des piliers majeurs de la République. Je m'incline pieusement devant la mémoire des anciens conseillers ravis à notre affection, tout en renouvelant mes prières pour le repos de leur âme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, cette cérémonie revêt une signification singulière en ce qu'elle ferme 5 années de collaboration fructueuse avec votre institution et ouvre en même temps une nouvelle mandature qui porte l'empreinte d'un engagement renouvelé, lourd de servitude, vous l'avez rappelé, et de contrainte. Ce moment solennel continue ainsi pour certains d'entre vous. Ce moment constitue pour certains d'entre vous, disais-je, le début d'une mission. Et pour d'autres, un nouveau palier à franchir dans notre œuvre commune de construction d'une société démocratique moderne. Mais servir son pays à ce niveau de l'appareil d'État, au-delà des privilèges, exige de nous un sens élevé du devoir, une haute idée de l'État et un respect scrupuleux des principes fondateurs de la République, tels que le devoir de réserve, la loyauté et l'intégrité. C'est pourquoi choisir des femmes et des hommes qui doivent composer le Conseil économique, social et environnemental de notre pays n'est pas un exercice aisé. Et vous avez raison d'en passer des nuits blanches pour faire les choix. Par la grâce de Dieu, nous y sommes. Donc, je vous demanderai de nous faciliter la tâche pour ce qui reste, qui est moins essentiel, la constitution du bureau et les commissions, puisque pour l'essentiel, votre composition représente les forces vives de la nation. Il y aura donc nécessairement des quotas qui reviendront aux organisations, patronales, organisations syndicales, certaines associations privées, disons, de la société civile, et également aux politiques. N'oubliez pas que nous devons appliquer le principe de la parité dans les deux. C'est la loi. Tout cela, c'est par vous-même, si vous imaginez la combinaison, vous verrez combien il est difficile dans ces conditions de sortir 4 vice-présidents, 6 vice-présidents et 6 secrétaires d'État. Donc 3 hommes, 3 femmes. Appliquez maintenant la diversité, vous verrez. Merci. Alors, c'est dire que votre mission au sein de cette institution, placée au-dessus de tout clivage partisan ou politique, votre rôle donc est de formuler dans une démarche plurielle des avis pour éclairer, orienter, voire même infléchir les décisions ou les choix politiques de l'État dans l'intérêt exclusif des populations. Le Conseil économique, social et environnemental est ainsi l'un des socles les plus solides de la gouvernance inclusive. Je vous exhorte donc dans le choix de vos thématiques et dans le secret de vos délibérations d'avoir toujours en ligne de mire l'intérêt général. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, instaurer la gouvernance inclusive, c'est gouverner sur la base de larges consensus. C'est privilégier la concertation et les échanges entre l'État, les partis politiques, les organisations de la société civile et les personnalités marquantes issues de milieux traditionnels, religieux, coutumiers et culturels. C'est pourquoi, faisant de la concertation un pilier essentiel de ma gouvernance, sur la base de notre solide culture de dialogue, j'ai mis en place les mécanismes institutionnels de médiation, de concertation et de conseil les plus perfectionnés en Afrique. Et votre institution en est une illustration. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, à l'esprit que la nation place beaucoup d'espoir en vous. Elle attend de vous un engagement indéfectible, un sens élevé de responsabilité et une analyse prospective nourrie par votre expérience et votre proximité avec les populations afin de jouer pleinement votre rôle de veille, de conseil et de régulation. Je vous exhorte donc, dans le cadre de vos travaux, à ouvrir à toutes les couches de la population, afin de valoriser les idées fécondes de cette masse silencieuse qui ne demande qu'à être impliquée au processus décisionnel. Soyez donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, au-delà du Président de la République, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, soyez le réceptacle institutionnel, pour ne pas dire le think tank, des masses laborieuses et des populations entreprenantes de notre pays. Vos débats et recommandations n'en seront que plus riches et plus utiles. Madame la Présidente, je tiens à magnifier le rôle important joué par cette institution dans la réalisation de mon ambition de bâtir une prospérité partagée, portée par le plan Sénégal-Énergie. En effet, par vos conseils et propositions émanant de vos études, échanges et délibérations, vous avez renforcé l'action de mon gouvernement dans cet immense chantier qui mobilise toutes nos énergies et cristallise tous nos espoirs. Je voudrais pour rappel dire combien j'ai apprécié avec mon gouvernement vos conclusions sur l'évaluation du Code des marchés publics et de vos recommandations y associées, mais également de tous les autres avis. Et comme nous sommes en attente de vous donner des sujets, je pense qu'il vous faut réfléchir maintenant sur les réformes du plan Sénégal émergent qui doivent accompagner les programmes. Parce que le PIB, c'est bien, la couverture maladie universelle, encore faut-il évaluer les impacts, mais il y a des réformes qui doivent accompagner ces politiques publiques. La réforme de notre administration, nos méthodes de travail, la dématérialisation, que faut-il faire pour qu'enfin nous soyons dans une société d'information qui soit au service des usagers et qui permette aux usagers de l'administration de pouvoir être satisfaits des services qui leur sont rendus. Le PAP 2, vous l'avez dit, qui est le plan d'action prioritaire, parce que le PSE est un programme sur 20 ans, subdivisé en plan quinquennal de 5 ans. Nous venons de faire le premier PAP, plan d'action prioritaire, 2014-2018. Et je serai à Paris au mois de décembre pour lancer le PAP 2 2019-2023. Il s'agira, dans cette deuxième phase, où nous allons mobiliser plus de ressources encore, que nous puissions faire les réformes qui permettront à notre pays, au plan fiscal, au plan des procédures et au plan de notre administration, avoir une administration de développement qui accompagne cette transformation structurelle, mais aussi cette inclusion à travers l'axe 2 sur la valorisation du capital humain, sur également les secteurs aussi vitaux que l'éducation, la santé et l'environnement, mais enfin sur l'axe 3 aussi, parlant de la gouvernance, de la paix et de la sécurité. Je pense que c'est déjà un sujet assez long sur lequel je suis sûr avec vos experts. Je vous invite donc, comme indiqué d'ailleurs dans le rapport général de la mandature 2013-2018, à continuer à prêter une attention particulière à la mise en œuvre du PSE par une action de veille et d'évaluation permanente pour anticiper les éventuelles contraintes et donc proposer les orientations nécessaires. Madame la Présidente, j'ai pris bonne note de votre proposition allant dans le sens d'une saisine plus fréquente du Conseil par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. À cet égard, je demande au Premier ministre de continuer à veiller à ce que l'avis du Conseil économique, social et environnemental soit requis sur les projets de textes législatifs réglementaires à caractère économique, social et environnemental. Ce sera d'ailleurs une conformité par rapport au texte en vigueur. Je ne serai terminé, comme la présidente, sans vous remercier personnellement pour le travail accompli, pour le management pendant ces 5 années, puisque c'est une institution plurielle, par conséquent difficile à administrer. Vu l'horizon où viennent les différents conseillers, les patrons sont libres, les syndicats sont libres, c'est le 25. Les politiques, mais ils sont encore plus compliqués. Alors, donc, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, et beaucoup de capacité, en fait, de management pour pouvoir maintenir le conseil dans son unité, et cela a été noté. Je voudrais donc vous remercier, mais remercier surtout également les conseillers qui nous ont accompagnés, et sans l'accord de terre, il est impossible d'avoir en tout cas cette image que nous avons aujourd'hui du Conseil économique, social et environnemental, et c'est une belle image de notre pays. Je vous renouvelle ainsi ma confiance, ainsi que l'ensemble des conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Et je voudrais sur ce, mesdames et messieurs, déclarer officiellement installé dans vos fonctions de conseiller et de membre associé du Conseil économique, social et environnemental pour la mandature 2018-2023.